votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut encore une fois fléchir le genou devant toi, reconnaître que c'est toi qui es notre Dieu, notre roi, notre maître, celui dont nous sommes les serviteurs. Et nous voulons nous approcher ce matin, Seigneur, avec humilité devant toi, reconnaissant que c'est toi qui as le pouvoir sur notre vie, reconnaissant que tu es notre créateur, celui qui sait ce qui est bon pour nous. Seigneur, en nous approchant de toi, Seigneur, on veut être enseigné par toi. Pour savoir comment on peut vivre cette vie nouvelle qu'on a trouvée en toi, pour qu'on puisse trouver cette joie en toi, cette joie parfaite que tu nous as promis. Seigneur, on veut reconnaître ta grandeur et ta puissance dans nos vies et te prier que tu puisses vraiment venir par ton esprit, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, afin qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à communiquer clairement ces principes qu'on y trouve afin de pouvoir encourager, édifier ton Église pour que chacun des membres de cette Église s'offre entièrement à toi comme un instrument de justice pour accomplir ta volonté et te donner toute la gloire, Seigneur. Ce matin, je veux prendre aussi un temps, Seigneur, pour te prier pour ceux qui ne sont pas ici avec nous, qui sont restés à la maison ou qui avaient d'autres engagements ce matin, à l'extérieur peut-être. On te prie d'être avec eux, que tu puisses les bénir là où ils sont. Bénis ceux qui souffrent, Seigneur, et qui sont dans la maladie. Étends ta main bénissante sur ces gens, Seigneur, qui font partie de cette Église, mais qui ne peuvent pas toujours être présents à cause de leur santé. Bénis-les, Seigneur. Que tu puisses leur donner la grâce de persévérer dans l'épreuve et qu'ils puissent apprendre à mieux te connaître et à mieux vivre pour toi à travers cela aussi. Seigneur, on veut te prier aussi pour ceux qui sont en vacances, accorde-leur le repos et que tu puisses les ramener, Seigneur, avec un nouveau zèle pour toi, pour te glorifier. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, comme je disais, on est rendu à la troisième prédication dans cette série, Une vie nouvelle en Christ. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction, je peux vous le dire, je l'ai partagé à mon petit groupe mercredi. Une bénédiction de pouvoir puiser dans ce chapitre de l'Épître aux Romains pour découvrir à nouveau les merveilles de l'Évangile. Et c'était ça un peu le but, et c'est ça notre but chaque semaine en fait. Pourquoi on plonge nos regards dans la parole? Pourquoi on met tellement d'accent sur l'enseignement de la parole dans cette Église? C'est parce que Dieu nous parle. On croit que c'est Dieu qui nous parle à travers la parole. Et c'est parce que aussi Dieu a un bon plan pour nous. Il y a un plan de bonheur, de joie. Et en plongeant nos regards dans sa parole, on apprend de lui comment on peut vivre ce bonheur et cette joie. Puis c'est un bonheur et une joie qui sont pas juste d'une courte durée, mais qui durent éternellement. Et comme je disais, ça a été une bénédiction pour moi encore de considérer sous d'autres angles les merveilles de l'Évangile dans ce passage-là. Et puis, on arrive maintenant à la troisième prédication. Et juste pour faire un survol de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui était là les deux derniers dimanches. Et juste faire un survol. On a vu les versets 1 à 11. Et puis, dans les versets 1 à 11, on le voit, Paul va expliquer qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on s'est uni à Jésus-Christ. Et puis, il va conclure au verset 11 en disant, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et la première prédication, il y avait du stock. Et puis, on a dit long en large, qu'est-ce que ça voulait dire être mort au péché? Et comment mon union avec Jésus-Christ a transformé pour que je sois vraiment réellement mort au péché? Et ensuite, la semaine passée, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire d'être vivant pour Dieu en Jésus-Christ maintenant. Et puis, on a vu ça, on a vu que Dieu nous a libérés du péché pour un but particulier, c'est qu'un but bien précis, c'est qu'on puisse être vivant pour lui et vivre pour sa gloire. Et en fait, dans les premiers 11 versets, Paul va mettre l'emphase sur l'idée de la liberté qu'on a en Jésus-Christ, d'être libre du péché, et va aussi avoir un emphase un peu plus sur s'approprier, comment on s'est approprié ce que Christ a fait pour pouvoir le vivre. Et justement, les versets 1 à 11 parlaient plus de comment, qu'est-ce qui s'est passé en nous pour se l'approprier. Et ensuite de ça, on arrive au verset 12 et jusqu'à la fin. Maintenant, comment je vais l'appliquer? Comment je vais appliquer ce que je me suis approprié en Jésus-Christ? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et puis, en réalité, le passage de ce matin commence au verset 12 où Paul va vraiment passer de l'explication de ce qui s'est passé avant dans ma vie à l'implication de ce que ça veut dire. Et donc, du côté grammatical, on voit que Paul parle à l'indicatif dans les versets 1 à 11, un petit peu d'impératif au verset 11, mais maintenant passe à l'impératif. Ce que je veux dire, c'est Paul décrit ma situation en Jésus-Christ et qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai été uni à Jésus-Christ. Et versets 12 à 14, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, il y a des exhortations, il y a des verbes à mettre en pratique à partir de là. Et puis, on s'est approprié une réalité en Jésus-Christ et maintenant, on veut la vivre et la vivre et l'appliquer dans nos vies. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus ce matin. Et en allant un petit peu plus loin, voir ce deuxième aspect, Paul va parler de la liberté qu'on a en Jésus-Christ dans les versets 1 à 14. Mais il va nous parler de l'envers de la médaille de ça. Il va parler de maintenant qu'on est des esclaves. Alors, on est libre, mais on est esclave aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il veut dire tout ça, Paul, à travers par tout ça, là, dire libre, esclave? C'est les deux côtés d'une même médaille. Puis en même temps, comment on comprend ça? Alors, on va regarder cela ensemble ce matin. Mais si on peut résumer en une phrase le passage de Romains 6 au complet. Et c'est l'idée de la prédication de ce matin, c'est que la vie nouvelle en Christ nous rend libres afin d'être entièrement soumis au Seigneur. OK? C'est deux aspects. La vie nouvelle en Christ me rend libre dans un but, pas une option, mais réellement un but, celui d'être entièrement soumis au Seigneur et de vivre pour sa gloire. Et ce matin, on va tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants pour Dieu? Comment on doit vivre cette pleine liberté qu'on a reçue en Jésus-Christ? Comment on le met en pratique? Et là, je pense que j'ai été assez clair. On va passer, qu'est-ce qu'il dit exactement? Comment on le met en pratique? Et puis, la première chose qu'on voit, c'est que si on veut vivre pleinement une vie nouvelle en Jésus-Christ, je dois renoncer au pouvoir du péché dans ma vie. On voit ça au verset 12. Paul va exhorter en disant que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Et ça, c'est la première chose à faire. De renoncer au pouvoir du péché dans ma vie. Et si on est mort au péché, et puis je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit lors de la première prédication, si je suis mort au péché, pourquoi Paul nous exhorte à renoncer au pouvoir du péché? Est-ce que j'ai été réellement libéré du péché? Oui, la réponse est oui, verset 14, parce qu'il dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et donc, Paul dit «
Le pouvoir du péché a été vaincu en Jésus-Christ. Et lorsque vous vous êtes approprié cela, il l'a vaincu dans vos vies aussi. Et vous avez été libérés. Maintenant, il arrive quelque chose quand même, c'est que le péché est toujours là. Et le péché a une influence dans ma vie. Et c'est à ce pouvoir-là que le péché cherche à regagner que je dois renoncer. Et je dois prendre cette décision personnelle de dire non au péché et oui à Dieu continuellement maintenant. C'est ce pouvoir-là que le Seigneur m'a donné. C'est cette liberté-là que Dieu m'a donné en Jésus-Christ de pouvoir dire non au péché et oui à Dieu. On s'est approprié cela. Comment on se l'est approprié? Par l'œuvre de Christ à la croix, par sa résurrection. Christ a tout accompli pour que je puisse être libéré du péché. Christ est mort pour le péché, il est revenu à la vie pour vivre pour Dieu. Et de la même façon, nous, par la foi, on a acquis cette victoire-là et on a reçu la grâce qui nous était offerte. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans les dernières prédications, la grâce que j'ai reçue. Et maintenant, je suis libre à l'égard du péché et je peux vivre sous la grâce. Et je veux prendre un temps ici, ouvrir une parenthèse, pour expliquer le verset 14, qui souvent, je l'entends cité dans le langage chrétien. De toute façon, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce maintenant. Mais pas toujours employé dans le bon contexte. Et puis souvent, c'est pris hors contexte pour se justifier de ne pas avoir à obéir à ce que Dieu demande. De toute façon, aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et puis, on se donne la permission de ne pas obéir à la loi et de se cacher sous la grâce pour faire peut-être aller à l'encontre de ce que la loi dit. Mais le point ici, c'est pas ça. Le point ici, c'est pas de dire, puisque je ne suis plus sous la loi, j'ai le droit de ne plus obéir à la loi. Puisque je suis sous la grâce, j'ai maintenant le pouvoir d'obéir à la loi, ce qui était impossible avant. Vous comprenez l'idée? Avant, j'étais sous le pouvoir du péché. La loi me condamnait. Je n'étais pas capable de lui obéir. Maintenant, en Jésus-Christ, j'ai été libéré. Et maintenant, je ne suis plus sous la loi qui m'accuse. Je suis en Jésus-Christ, je suis sous la grâce, me donnant la possibilité de lui obéir et m'exhortant même à lui obéir. On voit ça au chapitre 8, juste pour compléter cette parenthèse, chapitre 8, verset 4. Il dit, « Et cela afin, là il parle de l'œuvre de Christ, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Et donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est l'œuvre de la chair, c'est inimitié contre Dieu, c'est ennemi de Dieu et ne veut pas se soumettre à la loi. Et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça dit? C'est que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais l'Esprit, lui, se soumet à la loi de Dieu. Et maintenant que je suis sous la grâce, j'ai cette possibilité d'obéir à la loi de Dieu et je dois lui obéir. Maintenant, je comprends qu'il y a plusieurs choses dans la loi, plusieurs aspects de la loi, comme les cultes, les sacrifices, tout ça. On parle pas de se remettre sous le temps des sacrifices, mais on parle d'obéir aux standards moraux de la loi. Les 10 commandements, entre autres, sont un bon résumé des standards de la loi. Tu vas pas voler, tu vas pas commettre d'adultère, tu vas pas convoiter ton prochain. C'est possible maintenant de lui obéir maintenant à la loi parce que je suis sous la grâce. Et c'est pas plutôt le contraire de dire j'ai pas besoin de lui obéir parce que je suis sous la grâce. Au contraire, je dois maintenant lui obéir parce que je suis sous la grâce. C'est ça le point de Paul dans Romains 6, c'est que en Jésus-Christ maintenant, j'ai la grâce de pouvoir obéir à la loi. Et puis je voulais simplement ramener la bonne compréhension de ce passage-là dans l'esprit des croyants qui disent de toute façon moi je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, puis qui se permet de désobéir à la loi de Dieu. C'est pas ça. Au contraire, maintenant, obéis à la loi de Dieu, parce que Dieu t'a donné son esprit qui te rend capable de lui obéir. Mais, comme je disais, Christ nous a réellement libérés du péché, mais il reste que le péché continue de nous influencer, et pour cela, nous ne devons pas obéir au désir que le péché provoque en nous, et c'est le point du verset 12. Il dit de ne pas laisser le péché régner dans nos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le pouvoir du péché a été vaincu, mais on vit toujours dans ce corps mortel. Comment le comprendre tout ça? Puis je comprends qu'il y a du stock dans ce passage-là qu'il faut essayer de décortiquer pour le comprendre. Mais ici, mon vieil homme a été crucifié avec Christ, mais une autre réalité, c'est que j'ai encore ce corps mortel. Et tant que je suis dans ce corps, que je n'ai pas revêtu, qui est corruptible, qui est mortel, puis que je n'ai pas revêtu l'incorruptibilité, comme Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, je vais être soumis à l'influence du péché. Et je vais devoir renoncer au péché dans ma vie. Pour voir peut-être quelques passages concernant cela, je vous invite à tourner avec moi Romains 8, versets 22 et 23, juste pour vous montrer qu'on a encore cette lutte et que dans la chair, dans notre corps mortel, on a toujours cette chair-là qui a des désirs et on doit combattre le péché. Chapitre 8, verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et puis, dans mon corps mortel, je suis encore soumis à des désirs, influencé par des désirs et le péché qui cherche à reprendre ce pouvoir sur moi et je dois y renoncer. Et 1 Corinthiens 15, juste pour aller un petit peu plus loin dans ça, 1 Corinthiens 15, là, Paul parle vraiment, va parler de notre résurrection physique qui va nous permettre de revêtir l'incorruptibilité, ce qui va me permettre de vraiment être perfectionner et glorifier Dieu à la fin. Et puis, c'est en attendant la délivrance finale, on est encore soumis à des faiblesses et à la souffrance. La délivrance finale va venir, par exemple, parce que 1 Corinthiens 15, verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. » Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et vous voyez le langage ici, verset 53, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, Romains 6, mais il faut que le corps mortel revête l'immortalité. Et quand est-ce que ça va arriver? À la résurrection, au retour de Christ. Je vais être entièrement transformé, revêtir un nouveau corps qui va maintenant plus d'influence du péché. Je peux totalement vivre parfaitement pour la gloire de Dieu. Mais en attendant, l'application de ce que je me suis approprié en Christ, de la liberté que j'ai sur le péché, je dois renoncer au pouvoir du péché que le péché essaie de regagner sur ma vie. Alors, en attendant, on doit combattre contre le péché. Et le péché provoque des désirs en nous, il veut nous attirer dans ses liens, et il a des convoitises. Si on revient à Romains 6, il dit « N'obéissez pas à ses convoitises ». Et le péché est à l'œuvre de plusieurs façons. Et vous le vivez, vous êtes influencé par le péché de toutes sortes de manières. Tous les jours, en fait, on a cette influence qui vient de notre chair, le monde, et même Satan même qui vient pour nous tenter. Et puis, le péché provoque souvent en nous une illusion que dans un sens, si je lui obéis, ça va me satisfaire un peu plus que ce que Dieu va m'offrir. Et Dieu m'offre le bonheur, il m'offre la vraie joie, la vie en lui. Mais le péché vient pour me mentir avec ses convoitises et me dire, Nah. Tu pourras avoir ce que tu veux, là, tu peux l'avoir là, maintenant. Attends pas après Dieu, tu peux l'avoir maintenant. Et c'est un peu ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez? Adam et Ève, Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, du jardin. Mais Satan est arrivé. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Voici ce qu'il voulait dire. Et si tu le prends, tu vas devenir comme lui. Et donc, la convoitise cherche à satisfaire un désir en nous, un désir de pas être sous l'autorité de Dieu. Puis c'est une illusion que le diable et que le péché fait, c'est que si j'ai obéi, je vais être bien mieux que si j'ai obéi à Dieu. Et puis, un des dangers, souvent, puis ça c'est un élément pratique, c'est de penser que non, le péché n'a pas d'influence sur moi. Et de nier que le péché est présent. Dans un sermon qui date du 6 octobre 1891, c'est Charles Spurgeon qui dit « Combien nous répétons chaque jour la folie de nos premiers parents lorsque nous cherchons à cacher le péché de notre conscience et en pensant qu'il est caché aux yeux de Dieu. » Et lorsque parfois le Seigneur vient mettre en lumière des péchés dans ma vie et montrer que le péché est en train de m'influencer, en train de regagner le pouvoir sur moi, la première réaction souvent qu'on a, « Ben non, voyons donc, c'est pas ça qui est en train d'arriver. Non, non, je suis pas en train de me soumettre au péché. C'est pas un péché, ça. » Là, on justifie. Charles Spurgeon, je pense qu'il avait droit dans le mille. On répète chaque jour la folie de nos premiers parents quand on cherche à cacher le péché de notre conscience, puis qu'on pense qu'il est caché aux yeux de Dieu. Non, Dieu le voit très bien. Puis des fois, il veut te le mettre en lumière. Puis toi, si tu dis, non, c'est pas péché, ça. Moi, c'est correct. Non, c'est pas correct. Dieu essaie de te convaincre que c'est pas correct, puis toi, tu essaies de le nier. Essaie pas de nier le péché dans ta vie. Le péché est là. Puis une idée à partir d'ici, là. Le péché est là. Il vous influence, puis il est là. N'ayez pas sa présence. Au contraire, soyez attentifs à ce que Dieu met en lumière pour justement qu'il ne règne pas sur vous, puis que vous puissiez vivre pour la gloire de Dieu. Alors, notre cœur se forme des idoles, des fois que l'Esprit de Dieu va mettre en lumière. Essayez pas d'enlever la lumière de Dieu là-dessus. Laissez-la briller, puis cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu veut vous montrer exactement pour gagner la victoire sur le péché. Et le combat est là, et il est réel. 1 Pierre, je vais juste vous le citer, 1 Pierre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez sobres, veillez. Parce qu'il va vous pogner quand tu t'en attendras pas. » Hein? C'est ça qui fait. Souvent, tu vois, la vie chrétienne, ça va bien, mais à un moment donné, pow! C'est ce qui m'est arrivé. Le lion rugissant m'a agrippé. Je suis tombé. Soyez sobre, veillez, parce que la lutte est constante, la lutte est présente. Et on doit faire cette lutte-là en nous, chaque jour, de renoncer au péché, de renoncer au pouvoir du péché dans notre vie. Et la raison pour ça, Paul va l'élaborer dans la fin du passage de Romains 6, c'est que l'esclavage du péché conduit à la mort éternelle. Et tout le passage de 15 à 23 va illustrer ce fait que lorsqu'on obéit au péché, verset 16, lorsque j'obéis au péché, je me conduis tout droit vers la mort. Pourquoi? Parce que je deviens esclave du péché et que en obéissant au péché, je deviens esclave. Et qu'est-ce qui est le résultat de ça? Le péché qui conduit à la mort. Le péché conduit à la mort éternelle, une mort que je vais expliquer plus en détail. Mais lorsqu'on obéit au péché, pourquoi je ne veux pas obéir au péché? Parce que le péché me conduit vers l'esclavage. Il veut m'influencer pour me conduire vers la mort. Mais il s'est passé quelque chose dans nos vies qui fait que, dans un sens, je peux renoncer à ce pouvoir-là et marcher pour Dieu. Mais en réalité, j'ai toujours cette lutte-là à dire de ne pas devenir esclave du péché, de ne pas obéir à ses convoitises. Je dois persévérer dans tout ça. Et pour ceux qui voient ce passage-là, lorsqu'on va plus loin jusqu'au verset 23, entre autres, on voit dans ce passage que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Paul, premièrement, parle à des chrétiens ici. Hein. On l'utilise souvent dans l'évangélisation, puis c'est correct, je vais y venir. Mais Paul parle à des croyants ici. Obéissez pas au péché. Parce que qu'est-ce qui reçoit le péché? La mort. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens d'obéir au péché puis que le péché règne dans ma vie parce qu'il conduit vers la mort éternelle. Je veux pas faire ça. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux saisir le don gratuit de Dieu qui me donne la vie éternelle. Et puis on va voir plus en détail ensuite, maintenant comment on fait pour vivre pour Dieu. Mais l'esclavage du péché est réel. On a tendance parfois à vouloir l'ignorer, le nier. Et Paul parle ici, dans Romains 6, au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et quelle sorte de mort il parle? En étant mis en parallèle ou juxtaposé, si je pourrais dire, à la vie éternelle, je crois que Paul parle ici de la mort éternelle. Il y a plusieurs façons de voir la mort, ce que le péché a provoqué comme mort chez nous, la mort physique, évidemment, la mort spirituelle, qui était de ne pas pouvoir obéir à Dieu et de pouvoir pas être en mesure de plaire à Dieu, mais aussi la mort éternelle. La mort éternelle, c'est un fait dans les Écritures, et puis c'est réel. Le salaire du péché, c'est la mort et la mort éternelle. Et cette mort-là, c'est quoi? C'est la séparation complète d'avec Dieu pour l'éternité, pour ceux qui n'auront pas placé leur foi en Jésus-Christ pour recevoir le don gratuit de Dieu. Et on voit entre autres dans 2 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 9, justement Paul qui parle de cette mort spirituelle, mais de cette mort éternelle aussi. Lorsqu'il dit, verset 2 Thessaloniciens 1, verset 7, je commence au milieu du verset, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 9, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Et là, Paul parle à des chrétiens qui ont cru, qui ont saisi l'Évangile. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est qu'il va y avoir une mort pour ceux qui demeurent sous l'esclavage du péché. Et cette mort-là, c'est une ruine éternelle. Un lieu de souffrance éternelle, loin de la face de Dieu pour ceux qui n'auront pas cru. Et là, je veux être bien compris. Je ne suis pas en train de dire ça pour faire peur, mais pour ramener vers la bonne nouvelle. C'est qu'il y a une conséquence au péché, puis cette conséquence-là, le péché est tellement grave aux yeux de Dieu que qu'est-ce qu'il mérite? C'est la mort éternelle, séparée de la face de Dieu pour l'éternité, et ça, c'est une réalité, et je veux que vous le saisissiez. N'ayez pas, si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus, n'ayez pas que vous êtes sous l'esclavage du péché, parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Tant qu'on n'a pas cru à l'Évangile, on est sous l'esclavage du péché et on s'en va tout droit vers la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a pris sur lui la punition que le péché méritait. Il a été frappé pour nous, à cause de nos péchés. Nous qui étions coupables devant Dieu, Christ a souffert sur la croix la condamnation qu'on méritait. Pour que lorsque je vais placer ma foi en lui et croire dans l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à la croix, je puisse être pardonné de mes péchés. Je suis plus coupable devant Dieu. J'ai plus de condamnation qui pèse sur moi, mais il me donne la vie éternelle, un bonheur éternel. Seigneur, mes frères et sœurs et ceux qui n'ont pas encore saisi cette vérité de l'Évangile, le Seigneur vous offre un beau cadeau. Un don gratuit, celui de son Fils qui s'est donné pour vous. Et peut-être que tu n'as pas encore fléchi le genou devant ce Dieu si grand, le Dieu si saint. Je t'invite, mon ami, à fléchir le genou devant lui. Reconnaître qu'en Jésus-Christ, il a tout accompli pour que cette condamnation qui repose sur toi puisse être complètement effacée et que tu puisses vivre pour l'éternité. Viens à lui. Fléchis le genou devant lui. Reconnais que tu as péché. Demande-lui pardon et reçois le pardon qu'il t'accorde pour que tu puisses vivre éternellement. Parce que, en réalité, le vrai bonheur, c'est là, un bonheur éternel. Et c'est ce que Paul exhorte ici, qu'on puisse placer dans un sens, qu'on puisse, que pour les chrétiens, qu'on puisse pas vivre sous le péché parce que ça conduit vers la mort, mais qu'on puisse saisir la vie véritable qu'il y a en Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Donc, on a vu ensemble que si on veut vivre pleinement en Jésus-Christ, on doit renoncer au pouvoir du péché. Et ça, c'était la première chose. De l'application, la partie application. Je dois renoncer au pouvoir du péché dans ma vie. Maintenant, si je veux vivre ma vie pleinement en Jésus-Christ, ma vie nouvelle, c'est quoi la deuxième chose que je dois faire? Verset 13, je dois me donner entièrement au Seigneur. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, Paul dit, verset 13 de Romains 6. Excusez-moi, là, on s'est promené, on revient à Romains 6, verset 13. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dieu m'a libéré de l'esclavage du péché. Pourquoi? Pas pour que je puisse aller faire comme bon me semble, sinon je serais encore sous l'esclavage du péché, faire comme bon me semble, mais pour devenir le serviteur d'un nouveau maître. Et c'est ça le deuxième côté de la même médaille, c'est que j'ai été libéré du péché, mais maintenant je suis devenu esclave de Dieu. Je suis devenu un serviteur d'un nouveau maître. Et de là, les chrétiens doivent comprendre que j'ai pas juste été libéré d'un mauvais maître, mais je me suis placé sous un nouveau maître, et c'est un bon maître. On va voir ensemble. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché pour qu'on devienne esclave de la justice, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. On est devenu des esclaves de Jésus-Christ, des esclaves de la justice, des esclaves de Dieu, lorsqu'on a accepté que Christ devienne non seulement notre sauveur, mais le Seigneur de notre vie. Mais c'est un esclavage complètement différent de l'esclavage du péché. Et ici, Paul utilise l'image de l'esclavage, et je pense que c'est bien, parce qu'on s'est placé sous un nouveau maître, et le Seigneur est notre maître, et on veut lui obéir, se soumettre à lui. Mais différent dans le sens que maintenant, on a un bon maître. C'est pas un maître comme celui d'avant qui m'amenait vers la mort. C'est un maître qui veut me donner le bonheur et la vie éternelle. C'est un esclavage entièrement différent parce que Dieu manifeste sa bonté envers ceux qui le craignent et qui marchent dans ses voies. Lorsque Paul dit « Vous êtes devenus esclaves de Dieu », ça peut sembler péjoratif, mais c'est joyeux d'être devenu un esclave de Dieu. Parce que j'ai reçu la vie éternelle et maintenant, Dieu bénit cette vie-là de celui qui est soumis à Dieu puis qui le sert de tout son cœur. Le psaume 103, j'ai beaucoup de passages ce matin, mais je vous les donne parce que c'est des belles perles qu'on voit dans les Écritures. Le psaume 103, versets 17 et 18. « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. » Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et maintenant que je suis esclave de Christ, esclave de la justice, me suis placé sous un bon maître qui garde son alliance, qui va nous bénir, qui va bénir pas nécessairement avec des bénédictions matérielles, mais qui va nous bénir éternellement à cause de ce qu'on a trouvé en lui. Et la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et ça, c'est un incitatif aussi de venir à l'Évangile et de saisir qu'est-ce que Christ a offert. Parce que l'Éternel est bon envers ceux qui le craignent, qui se soumettent à sa volonté, qui lui obéissent. Maintenant, nous sommes les esclaves de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et par laquelle maintenant on a la liberté d'aimer Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit pour qu'on puisse se placer sous sa bonne volonté pour nous, sur son bon commandement, et qu'on puisse réellement vivre pour lui. Et puis, oui, on a un bon maître, mais ça demande qu'on demeure des esclaves et on demeure ses serviteurs. Et un serviteur, un esclave, ça se lève le matin avec une job à faire. C'est vrai? S'il appartient à un maître, il se lève, il se pose pas de questions, puis il dit, OK, c'est quoi ma job aujourd'hui? C'est quoi tu veux que je fasse? OK, je vais le faire. S'il veut pas être malmené. Mais Dieu a une bénédiction au contraire. Dieu est bon. Puis on devrait se lever le matin en disant, c'est quoi ma job aujourd'hui, Seigneur? Dis-moi c'est quoi que tu veux que je fasse. C'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui pour que je puisse vivre pour toi puis te glorifier. Alors, on ouvre les Écritures et on puise dedans. Mais un esclave, ça a un job à faire puis on doit savoir c'est quoi notre job. Et mais pour cela, on doit se donner tout entier au Seigneur. J'appartiens au bon maître, je veux me donner tout entier à lui. Entièrement, parce qu'on est ses serviteurs. Et à cause qu'on est ses serviteurs, on doit se consacrer entièrement à lui. Verset 13 du chapitre 6, il va dire, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et Romains 12, un très beau parallèle ici, Romains 12, 1 et 2, vous connaissez assez bien ce passage-là pour ceux qui... Ça fait longtemps que vous êtes dans la vie chrétienne. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une récompense liée à chercher la volonté de Dieu. Dieu bénit ça, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Mais on a besoin de s'offrir entièrement, offrir nos corps comme des instruments pour servir Dieu, mais aussi de notre pensée et que nos cœurs puissent être offerts entièrement à Dieu pour être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Et c'est ce qu'on a besoin. Si je veux passer à l'action et que mes membres servent, il faut que ce qui contrôle tout ça soit transformé aussi et appartienne à Dieu. Alors, je donne mon être tout entier au Seigneur. Je m'abandonne entièrement. J'offre mon corps, mon cerveau, mon cœur, mon âme au complet. On l'a chanté tout à l'heure. Prends mon corps, prends mon âme, je te donne tout. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Pas de demi-mesure. Au complet. Soumets-toi à moi. Puis vis pour la gloire de Dieu. Vis pour ma gloire. Donc, contrairement à avant, nos membres ne servent plus pour le péché, mais ils servent à glorifier Dieu en toutes choses. Et pour ça, j'ai besoin, justement, de me soumettre à Dieu entièrement, avoir mon intelligence transformée, obéir tout entier à la parole de Dieu pour vivre en action une vie transformée. Pour ceux qui, dans un sens, se disent, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Ici, je ne parle pas vraiment de quel job que le Seigneur veut que tu choisisses. Okay? C'est peut-être une opportunité d'emploi devant toi, tu as un choix à faire, tu cherches la volonté de Dieu. Ça, c'est un élément de la volonté de Dieu. Moi, je te parle de la volonté de Dieu qui est clairement révélée dans les Écritures. Si tu veux savoir exactement comment vivre pratiquement la vie chrétienne, Dieu nous donne, dans plusieurs passages des Écritures, des actions pratiques. Comment on doit le vivre en Église? Renoncer aux mensonges, etc. Et pour ceux qui veulent vraiment savoir en pratique qu'est-ce que je dois faire et comment mon intelligence peut être transformée, je vous invite à lire des passages pratiques de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, entre autres, on voit dans les Écritures que les épîtres de Paul sont souvent divisées en deux. Une partie très théorique, on est dedans, là. C'est très théorique. Mais à un moment donné, ça mène vers la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire de le vivre au jour le jour? Alors, si vous voulez chercher des actions pratiques, peut-être vous pouvez vous pencher vers ces épîtres-là dans les prochaines semaines, dans votre temps personnel avec Dieu. Et Romains 12 à 16, les chapitres 12 à 16, sont des endroits pour trouver des éléments pratiques. Galates 5 et 6, Éphésiens 4 à 6, Colossiens 3 et 4, la fin des épîtres de Paul. Si tu veux savoir de quoi être pratique, là, puis on pourrait aller en lire plusieurs, puis on dirait, oh boy, il y a du stock. C'est ça ma job. Oui, si tu veux le savoir, va lire ces épîtres-là, parce que c'est vraiment un encouragement parfois, puis de pointer que Dieu met en lumière dans nos cœurs des péchés à travers ça pour qu'on puisse passer à l'action pour lui. Mais Dieu demande une obéissance complète qui reflète la vie nouvelle qu'il a placée en moi. C'est ce que Dieu demande. Une obéissance entièrement soumise à sa parole. Puis, ça va m'arriver des fois de demander quelque chose à mes enfants. Puis, pour les parents, je suis certain que ça vous est arrivé, ça arrive, je suis certain, à tous les parents. Tu demandes quelque chose à ton enfant, et mon ami, ça traîne la bottine. Hey, Nathan, va donc me chercher. Je suis en train de jouer à oui, là, tu sais, c'est comme, tu me déranges. Ça arrive-tu des fois que le Seigneur vient vous déranger dans vos choses, puis que ça traîne de la bottine? Le Seigneur, il demande une obéissance complète. Une obéissance qu'un parent exige envers son enfant. Moi, quand Nathan traîne de la bottine, ou pas juste Nathan, les autres vont suivre aussi. Là, je prends lui, c'est le plus vieux. Ça l'arrive, de temps en temps. Mais quand il traîne de la bottine, je ne suis pas réjoui avec ça. J'aime mieux voir un cœur entier qui se donne en obéissance à moi puis à Dieu en même temps, OK? Parce que s'il m'obéit, il obéit à Dieu. Mais j'aime ça voir ça. Un cœur entier. Oui, papa, pars, il va le faire. Hey, regarde. Hey, merci, Nathan. Ça, là, c'est réjouissant. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous autres aussi. Des êtres tout entiers qui ne traînent pas de la bottine, mais qui se donnent entièrement pour lui puis qui font avec cœur, avec plaisir, avec joie, ce que le Seigneur demande. Une obéissance du cœur, c'est ce que le Seigneur nous demande. Puis là où on peut commencer, c'est en renonçant avec le péché, puis appliquer nos cœurs à l'obéissance. Si je veux renoncer au péché, je dois appliquer mon cœur à l'obéissance à Dieu. Et en même temps, ce qui est spécial, puis on voit dans les Écritures, c'est que là, je me soumets à Dieu, c'est comme mes idées changent, puis hop, je m'en vais dans une autre direction, puis je fais plus ce que je faisais avant. Psaume 119, 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Lorsque je serre la parole de Dieu dans mon cœur, puis je cherche à lui obéir, ça m'éloigne de ce qui pourrait être le péché qui voudrait régner sur moi. Et puis, qu'est-ce que je veux? C'est donner mon cœur au Seigneur entier, serrer sa parole en moi pour lui obéir. Puis lui obéir entièrement pour pas pécher contre lui. Et Galates 5, 16 va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, si je cherche à marcher pour Dieu, ça m'aide à renoncer au péché dans ce temps-là. Comprenez? L'idée, c'est de se soumettre entièrement à Dieu. Puis quand je suis soumis à Dieu, je suis soumis à mon maître, je fais pas la job d'un autre maître. Je fais la job de celui à qui j'appartiens maintenant. Et c'est ça, dans le fond, côté pratique de ce que Paul apporte ici dans Romains. Premièrement, si on veut vivre pleinement en Christ, on doit renoncer au pouvoir du péché. On doit aussi se donner entièrement au Seigneur. Toute ma vie lui appartient pour me soumettre. Ça implique une décision de notre part, mais c'est une décision qui mène à une récompense. Et c'est notre dernier point ici, dans Romains 6. Le Seigneur accorde une récompense éternelle à ceux qui se soumettent entièrement à lui. En donnant nos membres à Dieu, on produit le fruit de la sainteté. Verset 19 et 22. Deuxième partie du verset 19, il dit, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'une fois que je me soumets entièrement, qu'est-ce que ça va produire en moi? C'est la sanctification. Je vais arriver à la sainteté lorsque mes membres, mon corps, mon cœur, tout mon être appartiennent au Seigneur et sont dévoués à son service. Et on va voir le fruit de la sanctification se produire en nous. On va grandir dans la sainteté. Et il y a de la joie, là, à grandir dans la sainteté. Lorsqu'on se consacre entièrement à Dieu, ça produit la sanctification, mais il y a une récompense pour nous aussi. Combien d'entre vous, pendant des années, vous aviez un péché dans votre vie particulier, vous avez lutté contre ce péché-là. Et à un moment donné, vous avez pris des décisions par l'Esprit de Dieu, vous avez Vous êtes soumis entièrement à Dieu, puis Seigneur vous a donné la délivrance sur ces péchés-là. Étiez-vous heureux après de regarder en arrière et de dire, « Mon ami, je luttais avec ça, moi. » Puis là, ça fait longtemps, là. Seigneur m'a donné la victoire. Amen. Ça m'arrive, moi. Je me vire de bord et je dis, « Wow! Merci, Seigneur! Tu me donnes la joie parce que maintenant, je fais plus ça. Je fais d'autres choses. Là, il faut que je travaille. Mais il y a des choses qui sont réglées. Il y a des choses qui se sont réglées avec le temps. Puis ça apporte la joie, ça, de voir qu'on a grandi. Puis moi, ça m'apporte la joie aussi de le voir dans vos vies. On est impliqué dans l'Église, on regarde les frères et sœurs aller, puis on voit les luttes que chacun a, puis on vit toutes les mêmes, peut-être pas toutes au même niveau, mais on a des luttes, tous et chacun. Puis à un moment donné, on voit, ouais, ça fait un petit bout que ouais, je ne l'ai pas entendu chialer là-dessus, puis je parlais de chiolage la semaine passée, mais je n'ai pas entendu ça, ou je n'ai pas vu commettre cette action-là, puis il s'est détourné, puis le Seigneur a produit un fruit, puis là, je le vois, puis il est heureux là-dedans. Mais ça, c'est réjouissant pour les frères et sœurs aussi, de voir l'œuvre que Dieu fait en nous, parce que ça nous encourage à persévérer puis à se consacrer à lui, parce que Dieu nous fait grandir car on se consacre à lui. Et puis, il y a une joie là-dedans. Il y a une joie de pouvoir rendre gloire à Dieu puis de voir qu'on a eu des victoires sur le péché. Et Dieu accomplit son plan en nous, d'arriver à la sainteté afin de ressembler à notre Seigneur Jésus. Encore une fois, Romains 8, 29, « Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et lorsqu'on se donne entièrement comme les instruments de justice, esclaves de Dieu, nos membres entièrement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Me sanctifier pour qu'un jour, j'arrive à être semblable, de plus en plus semblable à Christ. Et un jour, lorsque je vais être délivré de ce corps mortel, je vais être semblable à lui. Je vais être perfectionné. Ça, c'est la récompense qu'on a. Le fruit de la sanctification dans nos vies, lorsqu'on se donne entièrement à Dieu. Je n'ai parlé tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la récompense d'une vie sainte, c'est la vie éternelle. On manifeste qu'on appartient au Seigneur lorsqu'on porte du fruit pour la sainteté. Le Seigneur nous a donné une nouvelle vie. Il nous a justifiés pour qu'on soit saints. Et à cause de cette œuvre-là de justification, de sanctification dans laquelle je grandis. Dans le fond, la sanctification manifeste que j'ai été justifié. Il me donne comme récompense la vie éternelle. Le péché méritait quelque chose. C'était la conséquence. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Il me donne sa grâce d'avoir la vie éternelle en lui, de pouvoir être justifié, de pouvoir grandir et de pouvoir vivre pour lui. Donc, Dieu offre la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui pour obtenir le pardon de leurs péchés. Et on est venu un jour à lui, pour ceux qui ont cru en lui, vous avez reçu ce pardon-là, vous avez été justifiés. Mais Paul dit, demeurez plus dans vos péchés. Portez du fruit de la sanctification. Montrez que vous appartenez à Dieu. Renoncez au péché, puis donnez-vous entièrement à lui. Mais si tu n'as pas fléchi le genou devant le Seigneur, je t'invite à venir à lui, à fléchir le genou devant lui pour recevoir son pardon et la vie éternelle. Le Seigneur ne nous a pas libérés du péché pour qu'on soit laissé à nous-mêmes. Il nous a rendus libres pour qu'on soit esclaves, esclaves de Dieu, entièrement consacrés à son service. Si on se relâche dans notre travail, puis qu'on est en train d'accomplir les désirs de notre mauvais maître, le Seigneur nous appelle à lui pour vivre pleinement la liberté qu'on a reçue en lui, en nous soumettant à lui. Et ça se peut que tu sois là dans ta vie spirituelle, à un certain moment, tu luttes avec le péché, puis tu réalises maintenant que tu as été soumis pendant longtemps à un péché. Le Seigneur t'offre dès maintenant de vivre la liberté en lui, en te soumettant à lui. Alors viens à lui, demande-lui pardon, il va te pardonner, et demande-lui d'accomplir son œuvre en toi pour avoir la victoire sur le péché et vivre la vraie vie en lui. J'ai cité la semaine passée un théologien qui dit « La vraie liberté, c'est celle de plaire à Dieu. » Mais si la vraie liberté, c'est celle de plaire à Dieu, frères et sœurs, donnons-nous entièrement au Seigneur pour vivre cette liberté-là, dans l'obéissance à sa parole, pour recevoir la joie de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Soumettons-nous à lui. et on va vivre cette liberté de lui plaire. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce qu'en toi, on a reçu la vie éternelle. Merci parce qu'en toi, on a reçu aussi le fruit de la sanctification dans nos vies. Par ton esprit, tu nous aides, Seigneur, à grandir pour toi. Tu nous demandes, une fois qu'on s'est approprié cela, Seigneur, de mettre en pratique, en renonçant au péché, puis en vivant pour toi, en nous soumettant entièrement à toi. Seigneur, on veut apporter nos cœurs devant toi ce matin et se soumettre entièrement à toi. Seigneur, je vois des choses que tu mets en lumière dans ma vie, des péchés avec lesquels je lutte. Je vais te demander pardon pour ça, Seigneur. Et peut-être que c'est le cas pour toi aussi, qui est ici ce matin. Prends le temps de demander pardon au Seigneur pour ces péchés que tu as laissés entrer. Et demande au Seigneur de t'aider à lui obéir. Et Seigneur, c'est mon désir à moi aussi. Je veux t'obéir. Je veux que mon corps, mon cœur, mon âme, tout entier t'appartienne et serve à ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Parce que j'ai vécu la joie avec toi en vivant pour toi. Et je veux continuer de vivre cette joie-là, de vivre pleinement cette vie-là. Donne-moi d'être fidèle à ta parole et d'obéir à ta parole, à tes commandements, pour que ma vie reflète que je t'appartiens. Merci Seigneur pour cette œuvre merveilleuse. Et je te prie pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore soumis leur vie à toi entièrement, que tu puisses parler à leur cœur afin qu'ils viennent à toi, reconnaître leurs péchés et venir à toi pour recevoir la vie, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en eux, afin que ta gloire soit manifestée tout autour de nous. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.